Chapitre 6. Depuis lors, une félicité pleine, oublieuse, effrénée, toujours nouvelle, les saisit l'un et l'autre. La passion les enveloppa, les rendit insouciants de tout ce qui n'aurait pas été pour l'un et l'autre une jouissance immédiate. Admirablement façonnés de corps et d'esprit pour la pratique des plaisirs les plus hauts et les plus rares, tous deux poursuivaient sans trêve l'absolu, le suprême, l'inaccessible. Ils allaient si loin que, parfois, une obscure inquiétude les prenait jusque dans leurs plus grands oublis, comme si une voix fût montée du fond de leur être pour les avertir d'un châtiment inconnu, d'un terme très proche. De leur lassitude même, le désir naissait plus subtil, plus téméraire, plus imprudent. À mesure qu'ils s'enivraient davantage, la chimère de leur cœur grandissait, s'agitait, engendrait de nouveaux rêves. Ils semblaient ne plus trouver d'apaisement que dans l'effort et l'excès, comme une forte flamme n'atteint toute son intensité que par la violence des rafales. Parfois, une source inopinée de plaisir s'ouvrait en leur âme, comme une eau vive jaillit sous le talon d'un homme qui marche à l'aventure dans le dédale d'un bois. Et ils y buvaient sans mesure jusqu'à l'épuiser. Parfois, sous le souffle des désirs, leur âme, par une hallucination singulière, concevait l'image décevante d'une existence plus large, plus libre, plus puissante, ultra délicieuse. Et ils s'y plongeaient, ils s'y délectaient, ils y respiraient comme dans leur atmosphère natale. Les finesses et les délicatesses du sentiment et de l'imagination alternaient pour eux avec d'aveugles fureurs de sensualité. Ils n'apportaient ni l'un ni l'autre aucune réserve aux prodigalités mutuelles de la chair et de l'esprit. Ils éprouvaient une joie indicible à déchirer tous les voiles, à découvrir tous les secrets, à violer tous les mystères. Quel étrange amour, lui disait Hélène, en se rappelant les tout premiers jours, son indisposition, son consentement rapide. Je me serais donné à toi le soir même où je t'ai vu. Elle en ressentait une sorte d'orgueil. Et son amant lui disait, ce soir, sur le seuil, quand j'entendis annoncer ton nom si près du mien, j'eus, pourquoi je ne sais, j'eus la certitude que ma vie était liée à la tienne pour toujours. Il croyait ce qu'il disait. Ils relurent ensemble l'élégie romaine de Goethe.
Lass dich, Geliebte, nicht träumen, dass du mir so schnell dich ergeben.
Ne te repens pas, ô mon aimé, de t'être donné si vite. Pour eux, comme pour le chantre divin de Faustine, Rome s'illuminait d'une lumière nouvelle. Partout où ils passaient, ils laissaient un souvenir d'amour. Les églises écartées de l'Aventin, Sainte-Sabine, avec ses belles colonnes en marbre de Paros, le joli jardin de Sainte-Marie du Prieuré, le campanile de Saint-Marie en Cosmédin, pareil à une vivante selle rose dans l'azur, connaissait bien leur amour. Les villas des cardinaux et des princes, la villa Pamphili qui se mire dans ses fontaines et dans son lac, toute gracieuse et molle, où chaque bosquet semble abriter une noble idylle et où les balustres de pierres et les fûts des arbres semblent rivaliser en nombre, la villa Albani, froide et muette comme un cloître, bocage de marbre sculpté et musée de buis centenaires, où, sous les vestibules et les portiques, entre les colonnes de granit, les cariatides et les Hermès, symboles d'immobilité, contemple l'immuable symétrie de la verdure, et la villa Médicis, qui ressemble à une forêt d'émeraudes se ramifiant sous une lumière surnaturelle, et la villa Ludovisi, un peu sauvage, embaumée de violettes, consacrée par la présence de la Junon qu'adora Goethe, au temps où les platanes et les cyprès, que l'on put croire immortels, frissonnaient déjà dans le pressentiment des enchères et de la mort, toutes les villas patriciennes, gloire souveraine de Rome, connaissaient bien leur amour. Les galeries de tableaux et de statues, la salle du palais Borghese, où, devant la Danaé, Hélène souriait comme devant la révélation d'elle-même, et la salle des miroirs, où son image passait entre les amours de Ciroferri et les guirlandes de Mario de Fiori, la chambre d'Héliodore, animée prodigieusement de la plus forte palpitation de vie que Raphaël ait su infuser à l'inertie d'un mur, et l'appartement des Borgia, où la fantaisie du Pinturicchio, se déroule en un merveilleux tissu d'histoires, de fables, de rêves, de caprices, d'artifices et de hardiesses. Et la chambre de Galatée, où s'épanche je ne sais quelle pure fraîcheur, quelle inextinguible sérénité de lumière, et le cabinet de l'hermaphrodite, où le doux monstre, né de la volupté d'une nymphe et d'un demi-dieu, allonge sa forme ambiguë parmi les feux de pierre fine, tous les séjours solitaires de la beauté connaissaient bien leur amour. Ils comprenaient le cri sublime du poète
« Eine Welt zwar bist du, ô Rome. »
Ô Rome, tu es vraiment un monde. Mais sans l'amour, le monde ne serait pas le monde, Rome même ne serait pas Rome. Et l'escalier de la Trinité, glorifié par l'ascension lente du soleil, devenait l'escalier de l'unique par l'ascension de la toute belle Hélène Mouti. Souvent, Hélène prenait plaisir à gagner par ses degrés la douce retraite du palais Zuccari. Elle montait lentement dans la bande d'ombre, mais son âme courait, rapide, jusqu'au sommet. Nombreuses furent les heures de délices que mesura la petite tête d'ivoire dédiée à Hippolyte, cette tête qu'elle approchait parfois de son oreille avec un geste enfantin, appuyant l'autre joue sur la poitrine de l'aimé pour écouter simultanément la fuite des secondes et les palpitations de ce cœur. André lui paraissait toujours nouveau. Parfois, elle restait comme stupéfaite devant l'infatigable vitalité de cet esprit et de ce corps. Parfois, sous les caresses, elle laissait échapper un cri où s'exhalait toute la terrible angoisse de son être, terrassée par la violence de la sensation. Parfois, entre les bras de l'aimé, elle était prise d'une sorte de torpeur extatique où elle croyait, par la transfusion d'une autre vie, devenir une créature diaphane, légère, fluide, immatérielle, très pure, tandis que les pulsations de la vie dans leur multitude lui rappelaient l'innombrable frisson d'une mer calme en été. Parfois, sur cette poitrine chérie, après les caresses, elle sentait en elle-même la volupté s'apaiser, s'aplanir, s'assoupir, telle une eau bouillonnante qui peu à peu retombe. Mais s'il respirait plus fort ou s'il faisait le moindre mouvement, elle sentait de nouveau, comme une onde ineffable, la traverser de la tête aux pieds, vibrer en s'atténuant et enfin mourir. Cette spiritualisation de la jouissance charnelle, produite par la parfaite affinité des deux corps, était peut-être, entre tous les phénomènes de leur passion, le plus remarquable. Parfois, Hélène avait des armes plus douces que des baisers. Et dans les baisers, quelle douceur profonde! Il y a des bouches de femmes qui paraissent enflammées d'amour, l'haleine au passage. Elles s'avivent d'un sang plus riche que la pourpre ou se glacent d'une pâleur d'agonie. Elles s'illuminent de la bonté d'un consentement ou s'assombrissent d'une ombre de dédain. Elles s'épanouissent de plaisir ou se tordent de souffrance. Elles portent toujours en elles une énigme qui trouble les rêveurs et qui les attire et qui les captive. Une discorde continuelle entre l'expression des lèvres et celle des yeux engendre le mystère. Il semble qu'une âme double s'y révèle avec une double beauté, joyeuse et triste, glaciale et ardente, cruelle et bénigne, humble et hautaine, souriante et ironique. Et cette ambiguïté suscite l'inquiétude chez ceux qui se complaisent aux choses obscures. Deux artistes du XVe siècle, méditatifs, pourchasseurs infatigables d'un idéal rare et suprême, psychologues pénétrants auxquels on doit peut-être les plus subtiles analyses de la physionomie humaine, plongés sans cesse dans l'étude et dans la recherche des difficultés les plus ardues et des secrets les plus occultes, Botticelli et Vinci ont compris et rendu par les moyens variés de leur art l'inexprimable séduction de ces bouches. André trouvait dans les baisers d'Hélène la quintessence de la volupté. Nulle union d'amour ne leur semblait plus complète et plus parfaite. Parfois, ils croyaient sentir la fleur vive de leurs âmes s'effeuiller sous la pression des lèvres en répandant par toutes leurs veines un suc de délices jusqu'au cœur. Et parfois, ils avaient au cœur comme l'illusoire sensation d'un fruit tendre et humide qui s'y fondrait. Pour prolonger cette saveur, ils retenaient leur respiration jusqu'à se sentir mourir d'angoisse, tandis que les mains de l'une tremblaient sur les tempes de l'autre éperdument. Après s'être détachés, ils se regardaient avec des yeux flottant dans un nuage de torpeur. Et elle disait, d'une voix un peu rauque, sans sourire, « Nous en mourrons !» Parfois, il attendait, renversé, les paupières closes. Et elle, qui connaissait cet artifice, avec une longueur préméditée, se penchait pour le baiser. Lui, dans son aveuglement volontaire, plein d'une présensibilité vague, ne savait pas où ce baiser se poserait. Pendant la minute d'attente et d'incertitude, une anxiété furieuse lui agitait tous les membres, aussi intense que l'horreur d'un homme aux yeux bandés qui serait sous la menace d'un seau de feu. Lorsqu'enfin les lèvres l'atteignaient, il avait peine à retenir un cri. Et la torture de cette minute lui plaisait, car il arrive souvent qu'en amour, la souffrance a plus d'attrait que le délice. Hélène aussi, par ce singulier esprit d'imitation qui pousse les amants à rendre exactement une caresse, voulait essayer à son tour. « Il me semble, disait-elle en fermant les yeux, il me semble que tous les pores de ma peau sont comme un million de petites bouches qui allaitent vers la tienne, pâmées du désir d'être élues, jalouses l'une de l'autre. » Et alors, par équité, il se mettait à la couvrir de baisers drus et rapides, parcourant tout ce beau corps sans y laisser la moindre place intacte, sans ralentir jamais son œuvre. Et elle riait, heureuse, avec la sensation qu'on l'enveloppait comme d'un invisible vêtement. Elle riait et gémissait, délirante, sous la furie des baisers qui s'emportaient en tempête. Elle riait et pleurait, éperdue, incapable de supporter plus longtemps cette dévorante ardeur. Et, soudain, elle emprisonnait dans ses bras le cou de l'aimé, l'enchaînait de ses cheveux, l'étreignait comme une proie palpitante. Et lui, lassé, heureux de se soumettre, restait captif dans ses liens. Et elle s'écriait « Comme tu es jeune! Comme tu es jeune !» En lui, malgré toutes les corruptions, malgré toutes les dispersions, la jeunesse résistait, persistait, métal inaltérable, arôme tenace. Cette splendeur de jeunesse vraie était sa qualité la plus précieuse. À la grande flamme de la passion, tout ce qu'il avait de faux, d'artificiel, de vain, se consumait comme sur un bûcher. Après la dissolution produite par l'abus de l'analyse et par l'action isolée des énergies intérieures, il recevait maintenant à l'unité des forces de l'action, de la vie. Il reconquérait la primitive confiance, il aimait juvénilement. Certains de ses abandons semblaient d'un enfant crédule. Certaines de ses fantaisies étaient pleines de fraîcheur et de grâce légère. « Quelquefois, lui disait Hélène, ma tendresse pour toi se fait plus délicate que celle d'une amante. Elle devient, comment dirais-je, presque maternelle. » André riait parce qu'elle était à peine son aînée de 3 ans. Et il lui disait « Quelquefois, la communion de nos esprits me semble si chaste que je voudrais t'appeler ma sœur en te baisant les mains. » Ces purifications, ces exaltations trompeuses du sentiment advenaient toujours aux languissantes accalmies du plaisir lorsque, dans le repos de la chair, l'âme éprouvait un vague besoin d'idéalité. Alors aussi ressuscitaient chez le jeune homme les idéales aspirations vers l'art qu'il aimait, et c'était dans son intelligence un tumulte de toutes les formes jadis cherchées et contemplées qui demandaient à se produire. Et les paroles du monologue goethien le stimulaient. À quoi servirait sous tes yeux l'ardente nature? Que pourraient autour de toi les formes de l'art si la force créatrice ne t'emplissait point l'âme de passion, si elle n'affluait point au bout de tes doigts, continuellement, pour l'œuvre future? La pensée de réjouir sa maîtresse par un vers nombreux ou par une noble ligne le poussa au travail. Il écrivit la Simone, et il fit 2 eaux-fortes, le zodiaque et la coupe d'Alexandre. Dans la pratique de l'art, il préférait les instruments difficiles, exacts, parfaits, incorruptibles, la métrique et la gravure. Et il visait à continuer et à renouveler les formes italiennes traditionnelles avec sévérité, en se rattachant au poète du Stile Novo et au peintre précurseur de la Renaissance. Son esprit était essentiellement formel. Il aimait l'expression plus que la pensée. Ses essais littéraires étaient des exercices, des jeux, des études, des recherches, des expériences techniques, des curiosités. Il pensait avec Taine qu'il est plus difficile de composer six beaux vers que de gagner une bataille rangée. Sa fable d'Hermaphrodite imitait en sa structure la fable d'Orphée, d'ange polycien. Et elle avait des strophes extraordinaires de délicatesse, de puissance et de musique, surtout dans les chœurs de monstres hybrides, centaures, sirènes et sphinx. Sa nouvelle tragédie, La Simone, de forme brève, avait une saveur très singulière. Toute rimée qu'elle était dans les anciens modes toscans, elle semblait conçue par un poète anglais du siècle d'Élisabeth sur une nouvelle du Décaméron. Et elle possédait quelque chose du charme doux et étrange qu'ont certains petits drames de Shakespeare. Au frontispice de l'exemplaire unique, le poète signa ainsi son œuvre. « A.S. Calcographus, aqua forti, sibi tibi fecit. » Le cuivre l'attirait plus que le papier, l'acide nitrique plus que l'encre, la pointe plus que la plume. Déjà, un de ses ancêtres, Jus Sperelli, avait essayé de la gravure. Certaines estampes de lui, exécutées aux environs de 1520, révélaient manifestement l'influence d'Antoine Pollaiuolo par la profondeur et par l'âpreté du dessin. André usait de la facture libre de Rembrandt et de la manière noire, chère aux aquafortistes anglais de l'école de Green, de Dixon, d'Erlom. Il avait fait son éducation d'après tous les modèles, il avait étudié séparément l'effet cherché par chaque graveur, il s'était mis à l'école d'Albert Dürer et du Parmesan, de Marc-Antoine et d'Holbein, d'Annibal Carache et de Marc Cardel, du Guide et de Callot, de Toschi et de Gérard Audran. Mais devant la plaque de cuivre, voici quelle était son intention propre. Éclaircir par les effets de lumière de Rembrandt les élégances de dessin des artistes florentins du XVe siècle appartenant à la seconde génération comme Sandro Botticelli, Domenico Ghirlandaio et Filippino Lippi. Ces deux dernières eaux-fortes représentaient en deux épisodes d'amour deux aspects de la beauté d'Hélène et elles empruntaient leurs titres aux accessoires. Parmi les choses les plus précieuses que possédait André Sperelli se trouvait une courte pointe en soie fine, de couleur azur passé, autour de laquelle tournaient les 12 signes brodés du zodiaque, chacun avec sa légende. Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Léo, Virgo, Libra, Scorpius, Architénès, Capère, Amphora, Pisces en caractère gothique. Un soleil d'or occupait le centre du cercle. Les figures animales, dessinées dans un style archaïsant qui rappelait celui des mosaïques, avaient un éclat extraordinaire. L'étoffe entière était digne de draper une couche impériale. Et en effet, elle provenait du trousseau de Blanche Marie Sforza, nièce de Ludovic le Mort, qui devint femme de l'empereur Maximilien. La nudité d'Hélène ne pouvait avoir une draperie plus riche. Parfois, tandis qu'André était dans la pièce voisine, elle se dévêtait à la hâte, s'étendait sous la courte pointe merveilleuse et appelait son poète. Et quand il accourait, elle s'offrait à ses yeux comme une divinité enveloppée dans une zone de firmament. Elle se levait parfois pour venir devant le foyer, traînant la draperie sidérale après elle. Frileuse, elle se serrait ses deux bras dans la soie. Et elle marchait pieds nus, à petits pas, pour ne point s'embarrasser dans l'abondance des plis. Le soleil lui resplendissait sur les épaules, à travers les cheveux dénoués. Le Sagittaire lui perçait la gorge de sa javeline. Un grand lambeau du zodiaque rampait derrière elle sur le tapis, emportant les roses qu'elle venait d'effeuiller. L'une des eaux fortes représentait précisément Hélène endormie sous les signes célestes. La forme féminine apparaissait, moulée par les plis de l'étoffe, la tête abandonnée au bord du lit, un peu en dehors, les cheveux pleuvant jusqu'à terre, un bras pendant et l'autre posé le long du flanc. Les parties découvertes, la face, le haut de la poitrine et les bras, étaient très lumineuses. et la pointe avait rendu avec beaucoup de puissance le scintillement des broderies dans la pénombre et le mystère des symboles. Un grand lévrier blanc, Famulus, frère de celui qui pose la tête sur les genoux de la comtesse d'Arundel dans le tableau de Rubens, tendait le cou vers la dame, les yeux braqués, en arrêt sur les quatre pattes, dessiné avec une heureuse hardiesse de raccourci. Le fond de la chambre était opulent et sombre. La seconde eau-forte avait pour motif le grand bassin d'argent qu'Hélène avait hérité de sa tante Flaminia. C'était un bassin historique, et il s'appelait la coupe d'Alexandre. Il avait été donné à la princesse de Bizente par César Borgia lors de son départ pour la France, où ce prince allait porter à Louis XII la bulle de divorce et les dispenses de mariage. On attribuait à Raphaël le dessin des figures qui en faisaient le tour et de celles qui surgissaient du bord, en face l'une de l'autre. Il s'appelait la coupe d'Alexandre parce qu'il avait été composé en mémoire de cette coupe prodigieuse où, dans les grands festins, le roi de Macédoine avait coutume de boire prodigieusement. Des troupes de sagittaires contournaient les flancs du vase, tumultueux, les arcs tendus, avec les admirables attitudes de ceux que Raphaël peignit, nus et décochant leurs flèches contre l'Hermès, dans la fresque de la salle décorée par Jean-François Bolognesi au palais Borghese. Il poursuivait une grande chimère qui faisait saillie comme une anse au-dessus du bord, tandis que, sur le bord opposé, bondissait le jeune sagittaire Bellérophon, l'arc tendu contre le monstre. Les ornements de la base et du fond avaient une rare élégance. L'intérieur était doré comme celui d'un ciboire. Le métal était sonore comme un instrument. Le poids était de 300 livres. La forme entière était harmonieuse. Souvent, par caprice, Hélène prenait dans cette coupe son bain du matin. Elle pouvait, sinon s'y étendre, du moins y plonger toute sa personne. Et en vérité, rien n'égalait la grâce souveraine de ce corps ramassé dans cette eau que la dorure teignait de reflets ténus, indescriptibles. Car après tant d'années, le métal n'était pas encore argent et l'or se mourait. Épris de trois formes diversement nobles, de la femme, de la coupe et du lévrier, l'aquafortiste avait trouvé une très belle composition de lignes. La femme, debout dans le bassin, nue, appuyée d'une main sur la saillie de la chimère et de l'autre sur la saillie du Bellérophon, s'allongeait en avant pour agacer le chien qui, plié en arc, les pattes antérieures abaissées et les pattes postérieures droites, pareil à un félin qui va bondir, tendait vers elle son museau, long et effilé comme celui d'un brochet. Jamais André Sperelli n'avait savouré ni souffert plus ardemment l'attentive anxiété de l'artiste qui surveillait l'aveugle et irréparable action de l'acide. Jamais il n'avait appliqué une patience plus aiguë au travail si délicat de la pointe sèche sur les rudesses des passages. Réellement, il était né graveur sur cuivre comme Lucas de Lède. Il possédait une science admirable, ou peut-être un sens rare, de toutes les moindres particularités de temps et de degré qui peuvent concourir à varier infiniment sur le cuivre l'efficacité de l'eau forte. Non seulement la pratique, la diligence et l'intelligence, mais surtout ce sens natif presque infaillible, l'avertissait du moment juste, de l'instant exact où la corrosion arrivait à donner telle valeur précise d'ombre que, dans l'intention de l'artiste, l'estampe devait offrir. Et cette maîtrise spirituelle sur la force brutale, ce pouvoir de lui infuser, pour ainsi dire, une âme esthétique, ce sentiment de je ne sais quelle occulte correspondance entre les pulsations de son poignet et la morsure progressive de l'acide, c'était son enivrant orgueil, sa torturante joie. Il semblait à Hélène qu'elle était déifiée par son amant, comme Isotta de Rimini, dans les indestructibles médailles que Sigismond Malatesta fit frapper à sa gloire. Cependant, les jours où André se mettait à l'œuvre, elle devenait triste, taciturne et soupirante, comme sous l'empire d'une secrète angoisse. Et elle avait de telles effusions de tendresse soudaine, mêlées de tant de larmes et de sanglots si mal contenus, que le jeune homme en demeurait étonné, plein de soupçons, sans comprendre. Un soir, il revenait à cheval de l'Aventin par la pente de la rue Sainte-Sabine, ayant encore dans les yeux la grande vision des palais impériaux incendiés par le soleil couchant, rouge de flammes entre les cyprès noirâtres que pénétrait une poussière d'or. La tristesse d'Hélène s'était communiquée à son amant et ils chevauchaient en silence. Devant l'église Sainte-Sabine, André dit en arrêtant sa monture « Tu te souviens ?» Quelques poules qui becquetaient en paix parmi les touffes d'herbe se dispersèrent aux aboiements de Famulus. La place était tranquille et modeste comme le parvis d'une église de village. Mais les murs avaient ce singulier éclat de lumière que reflètent les édifices de Rome à l'heure du Titien. Hélène s'arrêta aussi. « Comme elle paraît loin, cette journée !» dit-elle avec un petit tremblement dans la voix. En effet, c'était un souvenir déjà perdu dans l'infini du temps, comme si leur amour eût duré des mois et des années. Les paroles d'Hélène avaient suscité dans l'âme d'André cette illusion étrange et en même temps une inquiétude. Elle se mit à rappeler tous les détails de leur visite à l'église Sainte-Sabine par une après-midi de janvier sous un soleil précoce. Elle s'étendait avec insistance sur des minuties. Et par instant, elle s'interrompait comme quand on suit, outre les mots qu'on prononce, une pensée qu'on n'exprime pas. André crut sentir un regret dans la voix d'Hélène. Que pouvait-elle bien regretter? Leur passion n'avait-elle pas devant elle des jours plus doux encore? N'était-ce pas déjà la Rome printanière, si clémente aux amours? Perplexe, il ne l'écoutait plus. Les chevaux descendaient au pas, l'un à côté de l'autre, soufflant fortement des naseaux ou rapprochant leurs bouches comme pour se faire des confidences. Famulus allait devant et derrière, en course perpétuelle. « Tu te souviens, continua Hélène, tu te souviens de ce frère qui vint nous ouvrir ?»« Oui, oui. » De quels yeux stupéfaits il nous regarda. C'était un nain sans barbe, tout rugueux. Pour aller prendre les clés de l'église, il nous laissa seuls dans le vestibule et tu me donnas un baiser. Tu te souviens ?
Oui.
Et tous ces barils dans le vestibule et cette odeur de vin pendant que le frère nous expliquait les histoires sculptées sur la porte de cyprès. Et puis la Madone du Rosaire. Tu te souviens ? L'explication te fit rire. Et moi, t'entendant rire, je ne pus m'empêcher de rire aussi. Et nous rîmes si fort au nez du pauvre diable qu'il se troubla et n'ouvrit plus la bouche, pas même à la fin pour te dire merci. » Elle reprit, après une pause, « Et à Saint-Alexis, quand tu ne voulais pas me laisser voir la coupole par le trou de la serrure, comme nous avons ri là aussi !» De nouveau, elle se tut. Un cortège d'hommes montait la chaussée avec un cercueil, suivi d'une voiture publique pleine de parents qui pleuraient. Le mort allait au cimetière des Israélites. C'était un enterrement muet et froid. Tous ces hommes au nez crochu et aux yeux rapaces se ressemblaient comme des frères. Pour laisser passage au cortège, les deux chevaux se séparèrent et prirent chacun un côté en rasant la muraille. Et les amants se regardèrent par-dessus le mort, émus d'une tristesse croissante. Lorsqu'ils se rapprochèrent, André demanda « Qu'as-tu donc ? À quoi penses-tu ? » Avant de répondre, elle hésita. Elle tenait les yeux baissés sur le cou de l'animal qu'elle caressait du pommeau de son stick, irrésolue et pâle. « À quoi penses-tu ? » répéta le jeune homme. « Eh bien, je vais te le dire. Je pars mercredi, je ne sais pour combien de temps. Peut-être pour longtemps, peut-être pour toujours. Je ne sais. Notre amour se rompt par ma faute. » Mais ne me demande pas comment, ne me demande pas pourquoi, ne me demande rien, je t'en prie. Je ne pourrai pas te répondre. » André la regarda presque incrédule. La chose lui paraissait si impossible qu'elle ne le fit pas souffrir. « C'est une plaisanterie, n'est-ce pas, Hélène ?» Elle hocha la tête pour faire signe que non. Sa gorge s'était serrée et subitement, elle mit son cheval au trot. Derrière eux, les cloches de Sainte-Sabine et de Sainte-Prisca commencèrent à tinter dans le crépuscule. Ils trottaient en silence, éveillant les échos sous les arcs, sous les temples, dans les ruines solitaires et vides. Ils laissèrent sur leur gauche Saint-Georges en Vélabre, qui gardait encore une lueur vermeille sur les briques de son campanile, comme en ce lointain jour de bonheur. Ils côtoyèrent le forum romain et le forum de Nerva, déjà envahis par une ombre bleuâtre, pareille à celle des glaciers pendant la nuit. Ils s'arrêtèrent à l'arc des Pantani, où les attendaient leurs palefreniers et leurs voitures. À peine descendue de cheval, Hélène tendit la main à André, en évitant de le regarder dans les yeux. Elle paraissait avoir grande hâte de s'éloigner. « Eh bien, lui demanda-t-il en l'aidant à monter dans la voiture. « À demain. Ce soir, non. »